Merci. Je propose que le public prenne le relais. Il y a certaines questions que les deux Henri se sont posées et auxquelles ils n'ont pas frontalement répondu. Donc, si vous êtes frustré, ben, n'hésitez pas à interpeller l'un ou l'autre en disant qu'une question, à votre avis, reste en souffrance. Et donc, je vous donne la parole. Un, deux, trois, si j'ai bien vu l'ordre dans lequel les doigts se sont levés. Je vous écoute.
Je voulais peut-être toucher un mot sur le problème des signes convictionnels ou signes extérieurs. Ça me paraît, du point de vue d'un État neutre ou d'un point de vue d'un État laïque, peu importe comment on l'entend, et pas du point de vue de la laïcité philosophique ou de la laïcité politique, mais du point de vue de l'État que nous avons aujourd'hui, ça me paraît très délicat, d'un point de vue juridique, et là je rejoins Henri Goldman, de définir ce que c'est un signe. Comment peut-on assigner, comment peut-on prescrire à un individu, de manière objective et indubitable, vous portez un signe religieux? Est-ce le rôle d'un État neutre de définir ce qui relève de la sphère religieuse pour laquelle un État ou un individu neutre n'a pas à se prononcer en aucune manière? C'est extrêmement dangereux, de mon point de vue, du point de vue des droits démocratiques, de dire vous portez un signe religieux, vous n'en portez pas. Nous n'avons pas à nous occuper de ça, selon moi. Et c'est dangereux de commencer à y s'intéresser, dans le principe lui-même. Parce que nous sommes dans un cadre de droit démocratique, parce que la liberté d'expression individuelle, d'association collective est quelque chose de plus fondamental que le droit de pratiquer une religion, et que le droit de pratiquer une religion et de s'associer de manière collective en tant que religion découle de ce droit individuel et collectif de s'exprimer et de s'associer. Et donc je partage assez fort l'Henri Goldman, mais d'un autre point de vue, en disant, pour l'amour du ciel, nous qui sommes laïcs ou agnostiques, ou qui sommes représentants d'un État neutre, nous ne nous prononçons pas sur ce que c'est que la religion. Nous n'en savons rien et c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre.
La question est assez théorique, hein, c'est intéressant, intellectuellement, votre propos est intéressant, mais il est très théorique parce qu'en fait, il ne se pose jamais dans ces termes-là. Lorsque le signe religieux, si vous permettez, je vous réponds, c'est lorsque le signe religieux est porté, il est revendiqué comme tel. Et lorsqu'il n'est pas revendiqué comme tel, effectivement, il cesse d'être religieux. Tout est dans l'intention. Et donc, encore une fois, il s'agit de nouveau de vérifier la manière dont la puissance publique peut s'exprimer en étant, en acceptant, oui ou non, d'être représenté par une confession, par une orientation, ou pas.
Et vous aurez deux cas individuels, deux personnes qui portent le voile, tous les deux actrices, l'un qui vous dira c'est un signe religieux, l'autre qui vous le dira je vous conteste le droit de me dire que c'est religieux, c'est culturel.
C'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable.
Oui, mais vous faites quoi?
Eh bien, je pense que la question a déjà été abordée très souvent. C'est dans l'intention et dans la revendication que la question se pose. Quelqu'un qui, par exemple, dirait ben, ceci n'est pas une kippa, ceci est un pinemouche. Vous avez besoin de mettre un pinemouche, à moins qu'on en fasse une autre règle ou un autre règlement, évidemment. Mais donc, la question ne se pose pas dans ces termes-là, si vous voulez. Les gens qui revendiquent le port d'un signe ostensible le font avec la volonté de le revendiquer. Et ils le revendiquent.
Madame.
Moi, j'avais une question, mais plutôt dans une construction. Parce qu'ici, moi, j'ai vu beaucoup d'oppositions, mais j'aurais voulu savoir si chacun de nos intervenants pouvait donner des éléments qui leur semblent un socle commun. Parce que j'ai l'impression que c'est sur cette base-là qu'après, on peut construire autre chose. Des éléments qui vous rassemblent, finalement. Des choses.
Ils sont très nombreux. Dans les intentions, on a l'air d'être en contradiction. Dans les intentions, je suis intimement convaincu qu'on partage absolument, je dirais, les mêmes perspectives, les mêmes valeurs. C'est la manière d'y conduire, la manière de les réaliser qui probablement diffère. Un exemple précis, c'est que pendant un certain temps, j'ai entendu mon interlocuteur défendre l'idée selon laquelle il fallait absolument permettre aux enfants de porter, par exemple, un signe distinctif à l'école, parce que sinon, donc il semble défendre là la conviction de ses enfants, parce que sinon, ce que l'on risque, c'est que demain, il y ait des écoles où tous les enfants auront un foulard. Il y a un paradoxe terrible là-dedans. On n'est plus dans le principe, on est dans la stratégie. Or, je rappelle, et là je suis peut-être plus libéral que lui, que la liberté d'enseignement, ça existe. Et que ce soit en Belgique ou ailleurs, je ne vois pas pourquoi, même si je défends l'école libre, l'école publique, même si je pense qu'effectivement, dans mon type d'enseignement, il n'y aurait pas place pour les signes convictionnels, il ne demeure pas moins qu'un réseau qui déciderait de développer son enseignement propre, religieux en particulier, il existe un enseignement catholique, il existe un enseignement, pourquoi pas musulman, là où je suis plus suspicieux et dubitatif, c'est quand il s'agit de financer avec les deniers publics des enseignements confessionnels, mais que des gens décident de suivre un enseignement teintée de religion, c'est leur droit. C'est un droit fondamental, c'est un droit d'ailleurs auquel nous sommes, que nous sommes astreints de respecter par convention internationale. Donc, c'est dire que si on veut combattre le foulard en permettant aux enfants de le porter, moi j'ai quand même une petite difficulté par rapport à tout ça.
La valeur au-dessus n'est pas la même quand même.
Non, mais encore une fois, les convictions, je rappelle quand même que le fondement de la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience, la liberté d'examen, mais surtout la liberté d'expression. Et le foulard fait partie de la liberté d'expression, hein, ne nous trompons pas. Ce qui nous distingue, c'est peut-être sur la méthode, sur les lieux, parce que je pense qu'il y a un intérêt supérieur, effectivement, à l'exception doit se justifier par quelque chose, elle se justifie parce qu'effectivement, il faut rendre aux enfants cette capacité, cette aptitude, un jour, à disposer des outils nécessaires et suffisants pour se choisir. Ce que l'on ne fait pas quand on les imprègne. Un enfant que l'on baptise, quand il n'a pas encore le droit de dire oui, non, papa, maman, c'est pas un enfant qui a choisi. Quand à 13 ans, on lui demande de confirmer l'engagement qu'on a pris à son nom, on ne peut pas dire qu'il soit doté d'une maturité intellectuelle grandiose. Or, il est 9 dans 9 cas sur 10, il ne changera pas sauf à suivre le mouvement naturel de la sécularisation de nos pays. Donc voilà les enjeux. Je dis, moi, ce que je souhaite, c'est rendre effectivement la dignité, l'aptitude, la capacité, l'émancipation aux êtres humains. C'est ça mon critère. Et je ne vois pas dans un musulman, dans un juif, dans un chrétien, autre chose qu'un être humain. Le restant, c'est une richesse, c'est une singularité, mais qui est une richesse si elle n'est pas communautarisée, si elle ne sert pas à discriminer, si au contraire, comme vous l'évoquiez avant que nous rentrions, c'est le lieu d'un partage culturel, d'une écoute de musique commune et d'une ouverture aux autres. Là, c'est une richesse. Et voilà pourquoi je ne vous souhaite pas la discrimination.
Henri, tu veux ajouter quelque chose sur cette question de convergence?
Oui, oui. Bon, non, on ne se connaît pas encore assez. Hein. Donc, maintenant, Vincent Corbitaire nous a choisi en disant « Vous allez tous vous embêter si on dit la même chose. » Donc il a choisi un espace de désaccord. Mais je connaissais mieux son prédécesseur, Pierre Galland, qui partageait en gros toutes les convictions d'Henri Bartholomew Sen sur les questions dont nous parlons ici, mais avec qui j'avais d'énormes convergences dans des tas de domaines. Hein. Bon, et je dois dire, en gros, on est entre démocrates, entre progressistes, et je n'assimilerai jamais des gens qui défendent ces idées-là, même si je les combats sur le plan intellectuel, à des gens d'extrême droite. Ça n'a vraiment rien à voir du tout. On est dans les balises d'un débat démocratique dont on a bien besoin par ailleurs, sans excommunication. Alors, sur les deux points, école et emploi public. Donc, sur l'école, j'ai utilisé là, de façon rhétorique, un argument par les conséquences. Hein. Fondamentalement, je suis pour une école inclusive, ouverte à la diversité. Et sur la question de jusqu'où on l'a fait, bon, moi, là aussi, je souhaite qu'on soit cohérent dans la manière dont on aborde l'enfance et l'adolescence. C'est un processus qui se passe, pas à l'école primaire, mais qui se passe à l'école secondaire, qui est vraiment le lieu où tous ces débats ont lieu. Vous avez tout à l'heure soulevé la question de la maturité sexuelle, de la majorité sexuelle. Pour le moment, elle est à 14-15 ans, selon les cas. Bon. Devant un tribunal, on considère qu'un enfant peut témoigner que ce qu'il dit a de la valeur, et il y a une notion qui est très utilisée, même si elle se décline à géométrie variable, qui est quel est le terme exact qui se trouve dans la Convention des droits de l'enfant, la capacité de discernement. Et maintenant, on vient d'avoir très récemment un débat sur l'euthanasie des mineurs, où des gens ont même essayé mais finalement on est resté plus ou moins dans le flou, mais ont même avancé le concept de majorité médicale. Et Christine Defraigne, qui est une des artisanes de cette réflexion, la mettait à 15 ans. On est pratiquement au milieu de l'école secondaire. Hein. Bon. Or, décider de sa vie et de sa mort, ça a quand même plus de poids, ça a plus d'effet sur la destinée d'une personne que le fait de l'autoriser à porter un foulard ou pas. Dans tout ça, il me semble qu'être attentif à l'autonomie d'un adolescent, ça doit s'appliquer pratiquement à toutes les sphères. Et moi, je suis plus ou moins à l'aise, et je le reconnais comme un compromis culturel, parce qu'il n'y a pas de règle là-bas. On est vraiment dans des choses qui évoluent aussi. La maturité n'est pas la même aujourd'hui qu'à 50 ans, elle n'est pas la même dans toutes les civilisations. Je suis assez à l'aise avec une formule qui coupait la poire en deux, ce côté-là. Hein. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là aussi que je ne défends pas, dans ce cadre de ce compromis-là, la liberté pour les enseignants, parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens qu'un enseignant puisse le porter face à des élèves qui ne pourraient pas. Ça renverserait la voie. Mais donc, tout ça est dans une discussion où on essaie d'être aussi près que possible de la maturité des gens. Le droit de vote qui a été abaissé de 21 à 18 ans, c'est le résultat de quelque chose. Il y a même des partis, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais qui réfléchissent à l'abaisser à 16 ans. On est dans des systèmes où on n'est pas jeune, on n'est pas adulte, et l'affaire est beaucoup plus compliquée. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on serait beaucoup plus près de la réalité, et qu'on ne peut pas considérer qu'une fille de 16 ans qui porte un foulard, que c'est parce que ses parents la transforment en homme sandwich. Hein, l'autonomie, d'ailleurs, comme le marché d'ailleurs a rendu tous les gosses adultes, beaucoup plus tôt, depuis qu'on leur a donné le pouvoir d'achat. Ça c'est pour l'enseignement. Pour les services publics, tout à fait d'accord. Je suis absolument d'accord, et je pense d'ailleurs qu'on va vers ça, hein, et que bientôt on va avoir un retournement stratégique, hein, et qu'on sera bien ennuyé le jour où on aura des mouvements de femmes musulmanes qui diront « je le porte parce que c'est ma culture, pas ma religion ». Non, je ne vais même pas discuter avec vous de où la religion se situe dans ma culture, hein, à condition de ne pas avoir des comportements prosélytes, qui soient, etc. Je pense qu'on ira vers ça. Mais, alors, mais à côté de ça, vous dites, et bon, c'est quand même un peu caricatural, hein, la question du fort au faible. Hein? Moi, je suis pour aller très très loin de l'autorisation des ports de sin conviction dans la fonction publique en mettant quelques exceptions. Hein? Et je dis aussi, ces exceptions-là, pour moi, ça relève d'un compromis culturel. Ça ne fonctionne pas de la même façon dans toutes les sociétés, hein, si je vois bien quelles sont les réticences. Et donc, dans les idées que j'ai défendues par écrit, je dis, un certain nombre de fonctions d'autorité, je suis pour ne pas les mettre. Donc tout ce qui est lié, et pas seulement les fonctions régaliennes. Moi j'ai même rajouté, c'est mon point de vue personnel, deux catégories non régaliennes, qui sont les enseignants, et une certaine catégorie d'assistants sociaux qui peut vous exclure du chômage. Mais de dire que n'importe quel agent des services publics est dans un rapport d'autorité, c'est vraiment fortement solliciter la réalité. Hein? Quand vous allez à un guichet de poste, évidemment, le guichetier ou la guichetière peut refuser de vous vendre les postes, peut être grossier, mais il y a un chef derrière, hein? Il ne fait pas ça trois fois. Hein? Hein? C'est seulement de la véritable décision où on peut parler d'un rapport d'autorité. Vous ne vous rendez pas compte de la quantité d'emplois qui sont concernés par ce raisonnement. Hein? Les fonctions d'autorité, c'est quelques milliers de personnes, même quelques dizaines de milliers. Ça n'est pas rien. Hein. Mais si vous faites allusion à la fonction publique, alors c'est pas seulement la fonction publique, c'est tout ce qui relève du service public. Et ça va s'arrêter où? Vous mettez dedans Mediacom qui est à moitié privatisé, vous mettez dedans la Sabena qui est complètement privatisée, vous mettez dedans le Proximus qui est 51%, qui est coté en bourse avec un capital privé à 49%, et ça va encore basculer, ça va devenir complètement privé. Vous pouvez aussi mettre dedans, tant qu'on y est, les buralistes. Hein? Parce que quand ils vendent un timbre, ils font justement pendant 5 minutes une mission de service public et pourraient refuser de la vente puisqu'ils incarnent l'État. On est dans une spirale à ce moment-là qui n'a pas de fin. Parce qu'évidemment, le règlement communal de la commune de Berkheim-Saint-Agathe, hein, ils ont pas seulement interdit, comme beaucoup de communes, dans la fonction publique communale, mais ils ont dit toutes les associations qui reçoivent un subside quelconque de la commune, un local qu'on leur prête, etc., doivent appliquer le règlement communal. Ils sont CDH, hein, donc c'est pas les laïcars habituels. Hein. On est vraiment dans une culture où c'est en train de contaminer tout le corps social, et l'entreprise aussi. Hein, et l'entreprise aussi. Parce que dans l'entreprise, on peut interdire le port du foulard pour des raisons qui doivent être justifiées. Hein. Mais de dire que c'est éventuellement la majorité ou l'autorité qui peut toucher à un droit de minorité. C'est là-dedans qu'on est. Hein. Bon, là, les droits fondamentaux, c'est aussi le droit des minorités. Et c'est éviter l'abus de droit d'une majorité. Là, on est dans les droits fondamentaux. Donc je dis vraiment, on doit faire attention à ça. Pour le moment, ce qui se passe, c'est véritablement que la tâche ne s'arrête plus. Et j'aimerais bien entendre le calme pour dire que là ou là, c'est trop loin. Par exemple, sur les interdictions dans l'enseignement supérieur. Pourquoi j'entends jamais le calme dire que ça ne va pas ça?
Rapidement sur cette question-là, avant de donner la parole, je crois que la troisième demande était là.
Oui, mais donc, non, ce qui vous fâche, c'est la caricature, c'est l'excès. Je comprends bien, et vous trouverez toujours des situations effectivement extrêmes qui doivent forcément nous fâcher. Pour revenir à un exemple parmi d'autres, vous évoquiez à juste titre le cas de l'enfant qui aujourd'hui a le discernement suffisant que pour décider de vivre ou ne pas vivre dans des conditions telles que sa vie deviendrait insupportable. Ben, c'est pour vous dire à quel point il ne faut pas en faire une affaire d'âge. C'est une affaire de maturité. Un enfant, dans ces situations-là, souvent beaucoup plus de maturité qu'un adulte. Tout simplement parce qu'on sait. On sait effectivement que l'évolution mentale évolue à une vitesse exponentielle dans des situations extrêmes. Moi, je ne m'attache pas sur une question d'âge. Je ne peux pas vous dire si à 15, 13 ou 12 ans, une petite fille a la capacité c'est pas une question de discernement. Je crois que c'est une question vraiment d'avoir les outils suffisants que pour se choisir un destin à la fois politique et personnel. C'est pas une question de discernement. Un discernement, l'enfant de 4-5 ans a déjà du discernement. Il sait qu'il doit pas mettre sa main sur le feu. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, et on n'a pas inventé mieux aujourd'hui qu'un examen de maturité. On n'a pas fixé à 13 ans, on l'a fixé à 18, quand il existait. Et le droit de vote, c'est-à-dire effectivement l'accès à une voix sur le plan politique, on l'a fixé à 18. Donc 18 ans ne me semble pas non plus irréaliste, ne me pas complètement fou. On pourrait effectivement subordonner ça à des études, mais alors ça pose le délicat problème, la délicate question effectivement de quel type d'études et à quel niveau. Vous allez devoir déplacer le curseur à un moment ou à un autre, il y aura de toute façon toujours un compromis parce qu'on va disposer par voie générale et pas particulière. Parce que je ne peux pas, moi, imaginer à un moment donné que le législateur s'intéresse au cas particulier effectivement du buraliste ou de la femme du buraliste ou de la personne qui va le remplacer pendant deux heures. On peut tomber dans l'exception, d'exception, d'exception. Il faut effectivement imaginer en tout cas un tissu législatif qui fonctionne par voie de disposition générale. Et qu'il soit le plus proche possible, effectivement, du besoin des personnes, mais qui est simplement son explication. Il y a parfois des situations qui peuvent paraître injustes, mais qui en réalité ont une justification qui est un intérêt supérieur, qui n'est pas l'intérêt de l'individu en particulier à ce moment précis, mais qui effectivement permet de le vivre ensemble. Je crois qu'il faut y être attentif comme au reste.
La première vague de demandes de questions comportait une troisième de ce côté-ci, mais c'est peut-être plus le cas, si ? Oui ? Et puis, oui, je ne vous oublie pas, mais... Je suis
là. Sur le plan du principe, t'as qu'à vous prendre plein de questions et puis répondre d'un coup. Mais sur le plan du principe, moi je voudrais dire que ce qui me gêne dans votre développement, sur le plan du principe, c'est que en vous écoutant, l'humain n'est pas humain. C'est comme si on parlait de l'humain comme si c'était une pâte qu'on formait, que l'école configurait, et puis qui à un moment donné arrivait. Donc il y a tout ce côté. Absolument artificiel de la notion de liberté, de droit fondamental. C'est extrêmement désincarné et décontextualisé. Et du coup, ça amène à édicter des règles qui vont évidemment se cogner au réel partout. Donc c'est vraiment ce côté désincarné qui me dérange, parce que évidemment, comme enfant, on a besoin à la fois de s'attacher, de reconnaître et de devenir libre en même temps. En même temps, on est formé, en même temps, on se libère. Et ça, c'est vrai à tous les âges de la vie. Donc c'est toujours l'un et l'autre. C'est pas on doit être formé et pas déformé, et puis tout d'un coup, on est libre, et alors on fait un libre choix. Ça ne me semble pas tenir compte de la nature de l'expérience humaine. Donc, je pense que l'important, c'est justement dans la sécularisation, c'est de croire que c'est pas parce qu'on est influencé qu'on devient nécessairement intégriste ou qu'on est complètement aliéné. Et on est toujours dans cet entre-deux. Et pour moi, le discours de la laïcité, comme vous l'avez développé, en ridiculisant le compassionnel, etc., c'est juste une façon de vouloir faire correspondre l'humain à de la matière inerte. Ça m'effraie profondément, en fait. Donc, alors, comment accueillir dans le discours de la laïcité, justement, l'humain sans le mépriser parce que ce serait que l'émotion, du compassionnel et toutes ces choses qui n'ont pas de place dans ce que j'entends chez vous. Alors, voilà, ça m'étonne. Et sur le guichet, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, si je suis servie par une femme qui porte le voile, je pense bien que c'est son choix et je ne crois pas qu'elle cherche à m'influencer. Donc, et quelqu'un qui ne le porterait pas, ou un homme qui est musulman et que ça ne se voit pas bien parce qu'il ne porte pas la barbe et qui décide de maltraiter quelqu'un alors qu'il n'a. Donc, ce qu'on porte, où est-ce qu'on va chercher que c'est du prosélytisme, franchement ?
Non. Si vous avez peur, moi aussi, hein, parce que quand je m'entends à travers votre bouche, effectivement, j'ai peur. Non, si vous avez compris ce que vous avez compris, je me suis mal exprimé. Oui, mais je me suis mal exprimé. D'accord. Non, il ne s'agit pas pour moi de transformer l'humain en une pâte. Hein. Je crois qu'au contraire, l'école est le lieu d'émancipation, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, le produit des cultures qui nous accueillent. Hein. Et je ne parle pas pour autant que l'homme est une pâte à ce moment-là, mais n'empêche qu'il est imprégné. Il est imprégné de sa culture, sa famille, ses proches. Si aujourd'hui, par exemple, au Centre d'Action Laïque, on défend l'idée selon laquelle on devrait rendre l'enseignement obligatoire à partir de 3 ans, c'est parce qu'on sait qu'à 5 ans, il y a déjà un certain nombre d'attitudes, de postures, qui empêchent l'enfant d'être sur pied d'égalité avec d'autres enfants qui seraient d'une culture différente, d'une culture plus autochtone, par exemple. On sait, on en a fait la preuve. On voit que l'échec scolaire est fortement imputable au fait que, peut-être que pour une partie des populations d'origine émigrée notamment, il est absolument handicapant de ne rentrer à l'école qu'à 5 ou 6 ans, parce qu'effectivement, le vocabulaire n'est pas intégré de la même manière, parce que les postures, les attitudes familiales ne sont pas effectivement normées dans ce que constituerait la majorité de le tissu social ordinaire. Donc il est clair qu'on est, on est chaque fois déformé ou formé en fonction des rencontres que l'on fait, mais l'école est ce lieu de citoyenneté où effectivement on s'ouvre au reste du monde. On ne manipule pas une patte, on permet justement à l'enfant de se découvrir et de se découvrir par rapport à un monde plus large que celui que lui offre la famille au départ. C'est ça l'enjeu du départ. Alors oui, par rapport à la guichetière, ben oui, c'est infini comme débat. Hein, je peux vous citer un exemple. Vous pouvez ne pas voir que la personne fait du prosélytisme. Je vous dis pas qu'elle fait du prosélytisme. Vous pouvez lancer le débat. Je dis simplement que on ne peut pas suspecter la femme de César. C'est tout. Je dis simplement que la question de la conviction n'est pas une question qui doit s'associer à la notion de du prince. Alors bien sûr, on peut décliner. On peut dire, mais peut-être qu'il y a des fonctions plus régaliennes que d'autres, et là, ça justifierait. Mais où est-ce qu'on va passer le curseur? À partir de tel moment, on dit oui, et là, on dit non. Je pense qu'effectivement, la notion de service public est une notion intéressante à retenir, parce qu'effectivement, j'ai d'un côté un fournisseur, un détenteur d'une parcelle de la puissance publique, qu'on le veuille ou non, et d'autre part, j'ai un usager qui a le droit à accéder à son service sans discrimination, sans avoir le sentiment d'être discriminé. Si vous n'avez pas ce sentiment, c'est parfait, mais qui vous dit que c'est le sentiment de votre voisine qui, elle, portera un foulard, ou de votre voisin qui, lui, portera une kippa? Et donc, c'est le voisin et la voisine qui sont en face de la guichetière qui doivent être protégés dans leurs droits, pas la guichetière. Voilà mon sentiment.
Il y a une demande de question là, et madame aussi. On va peut-être les prendre toutes les deux. Je vous en prie.
Je vais juste réagir à ce que vient de dire monsieur. C'est pas vrai.
D'accord.
Le fonctionnaire, là, ne peut pas montrer quelque chose de ses propres opinions. C'est pas pour protéger la personne qui est en face de lui, c'est pour le protéger, lui, de l'éventuelle accusation de partialité envers lui.
Donc, une autre manière de présenter les choses.
Donc, c'est un peu un problème de réputation. Mais... Donc, je voulais juste dire, rajouter simplement aussi, pour montrer comment les choses parfois se retournent complètement. Vous disiez tout à l'heure que les religions, c'est contingent. Je suis très d'accord avec vous, mais j'ai envie de dire avec monsieur, ici juste devant moi, que les signes religieux, c'est aussi très contingent. Et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une absolutisation de ces signes. Et donc, je pense qu'on est dans une époque très paradoxale, où en même temps, on dit oui, les religions, c'est contingent, mais si jamais quelqu'un laisse voir qu'il appartient à telle religion, c'est très grave, c'est pas du tout contingent. Et ça, je pense que c'est un construit qui appartient à cette société-ci, dans un contexte de l'histoire d'immigration.
Mais de nouveau, on dépasse le débat. Je n'ai jamais dit, effectivement, qu'il était dangereux d'exprimer ces signes, les signes extérieurs de sa confession ou de ses convictions. Je dis que dans certains lieux qui sont des lieux d'exception, et on a dit pourquoi, effectivement, je pense qu'il est opportun de ne pas permettre aux gens d'exprimer leurs convictions. Dans des moments très particuliers, il y en a deux, pas trois. Enfin, vous pourriez en avoir trois éventuellement.
Il faut bien les absolutiser.
Mais non,
c'est-à-dire. C'était si contingent que ça.
C'est dans une fonction particulière, oui. Nous savons qu'effectivement, la communauté ou le communautarisme vient aux antipodes, effectivement, de la démocratie qui rend tous les citoyens égaux. Et avec une loi commune. C'est vrai que les religions ont des lois singulières, particulières. La loi commune, elle est la même pour tout le monde. Et donc les communautarismes ou les communautés, effectivement, sont souvent aux antipodes, viennent souvent au choc et en rupture avec, effectivement, ce qui est en principe la règle de l'égalité de chacun.
Je vais prendre juste un exemple à la Henri Goldman. Si j'étais un agent
londonien, vous auriez un sikh.
Je me sentirais personnellement très offensé parce que vous venez de dire que ça voudrait dire que, portant le foulard sikh, je ne remplis pas mes missions d'agent de police en parfaite neutralité vis-à-vis de tous mes concitoyens londoniens. Et donc je pense qu'un agent de police sikh londonien aujourd'hui ne pourrait pas accepter ça.
Mais moi je pense qu'un agent londonien sikh n'est pas un imbécile, et que si vous l'expliquez pourquoi il est intéressant d'enlever son turban et de mettre un képi, précisément parce que ça ne va pas l'affecter lui particulièrement, ça ne va pas lui faire changer de conviction, ses convictions lui appartiennent, mais ça va permettre effectivement de donner une lecture plus universelle, plus neutre de la puissance publique par rapport aux citoyens, qui lui peut effectivement s'en revendiquer pour aller chercher votre agence qui va bien comprendre les choses.
Justement, les londoniens ne pensent pas ça.
Non, c'est le multiculturalisme et avec les excès que ça occasionne. Parce que je ne voudrais pas effectivement vivre dans la banlieue londonienne. Je ne suis pas sûr effectivement que la solution multiculturelle avec les communautés qui se juxtaposent aux communautés, qui ne se croisent plus, qui ne se rencontrent plus, même dans l'école, je ne suis pas sûr que ce soit une meilleure solution que ce que j'appelle la laïcité.
Oui, je ne pense pas que c'est le turban de la police qui pose problème à ce niveau-là.
Non, mais vous pouvez, bien sûr, toujours, vous remarquez que vos arguments sont toujours construits sur l'anecdote, sur l'excès d'une particularité. Moi, je ne vous entends pas sur le plan des principes, en tout cas.
Si vous permettez... Enfin,
oui, une dernière petite réponse, parce que je voudrais donner la parole à madame.
Dans un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, qui s'appelle Les guerres puritaines, ce qui est intéressant dans l'exemple de l'agent de police, c'est justement qu'on parvient, dans le signe, c'est un travail d'articulation symbolique, enfin c'est comme ça en tout cas que je le défends, c'est qu'on montre, non pas, et là c'est une question de lecture, mais donc c'est celui qui regarde, qui est responsable de son regard. Toute la question est, qu'est-ce qu'on voit? On voit un agent de police, donc quelqu'un qui est sous mission, qui est mandaté, rendu serment et tout ça, qui se trouve être aussi sikh, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est un sikh qui se trouve être aussi agent de police? Et ça, ça se joue dans le regard de celui qui regarde, donc pas dans le chef de la personne qui est derrière le guichet, mais dans le chef de l'autre personne. Or, je pense qu'ici, aujourd'hui, on crée une... Je pense que les londoniens, il y a sans doute plein de problèmes dans les banlieues londoniennes, ça ne se doute pas, mais je pense que justement ce problème-là, il n'y a pas. Parce qu'il est clair que, portant l'uniforme, il fait allégeance, c'est une question d'allégeance évidemment. À qui fait-on allégeance? Eh bien, il fait allégeance au corps de police, dans le cadre de la loi du Royaume-Uni, mais ça ne l'empêche pas par ailleurs de porter un foulard.
Merci. Madame.
Il y a un aspect dont on n'a pas parlé et je trouve quand même assez important. On a beaucoup parlé de foulard et tout ça que je qualifierais d'épiphénomène, mais je trouve qu'il y a une attaque beaucoup plus dangereuse sur la laïcité, c'est le mauvais apartheid en genre qu'on commence à instituer. On voit de plus en plus, bon, je ne suis pas des plus jeunes, j'ai encore connu le combat féministe longtemps et un des grands combats laïcs, c'était comme mix, etc. Je vois que de plus en plus, il y a des tendances à piscine, séparer vraies femmes, association, les femmes séparées. On est en train de faire, de créer, et avec la connivence de certains mouvements féministes, là, un système d'apartheid qui remet les femmes dans un moque. Et c'est, il y a une connotation religieuse à la base très, très claire à ça, pour moi. Et je trouve que les pouvoirs publics qui financent ce genre de mouvement qui mène à ce que je ne peux pas appeler autrement qu'un système d'apartheid, au lieu d'être basé sur la couleur de la peau, est basé sur les caractéristiques physiques sexuelles, est un mouvement qui est en train de ronger la société laïque et dont on ne se rend presque pas compte.
Henri, parce que je crois que ça s'adresse davantage à toi d'abord.
Oui, bon, c'est une question... C'est une question, enfin je ne sais pas, je ne dis pas marginale, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que les premières demandes d'horaires séparés pour les piscines n'ont pas du tout été demandées par des associations religieuses, mais par des mouvements féministes laïques. Hein. Bon, une partie du mot... Oui, je suis désolé, je n'ai pas pris les références avec, je ne me suis pas préparé à ce type de questions, mais ce n'est pas difficile à trouver. Une partie du mouvement féministe, hein, essaie de combiner des combats pour une mixité égalitaire, parce que toute mixité n'est pas égalitaire, hein, avec des espaces d'autonomie. Hein, et par exemple, beaucoup d'associations féministes organisent une réunion en disant c'est women only. Hein, ça, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont pour que la société soit construite comme ça. Ça signifie que dans certaines situations de mixité, elles ont l'impression d'être regardées comme du bétail. Alors, il y a tout un travail à faire là-dessus. Hein. Personnellement, je suis pour une mixité égalitaire quasiment partout. Hein, et je dois bien constater que certaines situations de mixité, d'abord qu'il y a des tas de situations de non-mixité indépendamment de la religion. Hein. Bon, je sais bien que ce n'est pas 100%, mais vous savez très très bien dans quel cénacle vous ne verrez que des hommes. Hein, et dans quel cénacle vous ne verrez que des femmes. Même si ça n'est pas bétonné. Mais c'est comme ça, ça s'explique facilement. Mais il y a des tas de situations mixtes où au nom de la galanterie, au nom de la séduction, au nom d'être gentil avec les dames, hein, les dames n'ont pas l'impression qu'elles sont respectées. Hein. Et quand vous êtes dans une société qui continue à être inégalitaire selon qu'on est homme ou femme, il y a des moments où les femmes ont envie de se protéger. À côté de ça, il y a des demandes de piscines séparées. Moi, je garde toujours un courrier que m'a envoyé une amie communiste complètement athée qui m'explique qu'elle veut... Elle a besoin de créneaux de femmes séparées parce qu'elle n'aime pas ce qui se passe dans les trucs mixtes. On peut discuter avec elle, on peut dire qu'elle a tort, mais c'est son droit. Je veux simplement dire que, et à côté de ça, il y a des trucs religieux douteux. Hein. Moi, je suis plutôt en faveur d'avoir des créneaux de ce genre, mais je ne suis pas pour les avoir réservés aux femmes de telle ou telle religion. Bon, mais là, je dis, on est dans un débat un peu séparé, enfin un peu particulier. Je voulais réagir à certaines choses sur la question des préjugés. Donc Henri Bartholomeusen a déjà cité plusieurs fois une phrase que je trouve extrêmement importante mais qui doit être travaillée, qui est « le service public ne doit pas seulement être impartial, il doit en donner l'impression ». C'est une phrase qui fait maintenant jurisprudence, hein, et c'est une affaire assez compliquée, parce que d'une certaine manière, quand on dit ça, qui a l'impression, on fait appel à ce qui est de l'ordre du préjugé culturel. Alors, je ne dis pas qu'on doit dire qu'on s'en fiche. On doit être extrêmement attentif à ça. Dans mon bouquin, le rejet français de l'islam, il y a une affaire assez compliquée à comprendre, hein, où je parle du partage négocié de l'espace symbolique. Tant qu'on est dans les symboles, il y a un travail à faire, un double travail à faire. Hein, si on veut lever des barrières qui ne devraient pas exister, mais ces barrières existent au niveau de la perception symbolique. Alors, qu'est-ce qui fait que vous...
Je poursuis.
Qu'est-ce qui fait que...
C'est un signe qu'il n'est pas religieux. Oui. Oh.
Qu'est-ce qui fait qu'on pourra avoir l'impression que telle personne ne vous traitera pas équitablement? Donc pour moi, je réserve ça aux questions où il y a vraiment un traitement. Et donc pas au guichetier, il faut quand même être sérieux. Hein, mais des questions où une personne a vraiment une autorité sur vous, où son jugement peut affecter la manière dont vous pourriez... dont vous pourriez agir. Donc vous connaissez Alain Soral, hein, ce polémiste, etc., hein, repris par Jean Bricmont, qui, jusqu'à un certain point, suit cette voie. Une interdiction d'un spectacle de Dieudonné a été faite par un juge du Conseil d'État. Il se trouve que ce Conseil d'État s'appelle Stirn, et qu'il est l'héritier d'une vieille famille juive française. Et que dit Soral, repris par Bricmont, ça ne va pas. Le simple fait qu'il soit juif crée une suspicion que, comme évidemment, comme il est juif, il n'aime pas Dieudonné, il ne peut pas juger impartialement. Vous vous rendez compte où nous conduit ce genre de suspicion? Moi, je travaille au Centre pour l'égalité des chances. Je ne porte pas de kippa, mais je m'appelle Goldman. Autrement dit, je porte la kippa sur mon nom. Ben, imaginez-vous que des gens arabes, m'identifiant comme juif et pensant ce que beaucoup d'Arabes pensent des juifs, tu dis, ah non, je ne veux pas qu'il me reçoive celui-là. Je n'ai pas l'impression qu'il me traitera. Est-ce qu'on doit, accepter ça? Est-ce que quelqu'un qui a un problème par rapport à son orientation sexuelle doit vérifier si en dehors de son travail telle ou telle personne n'a pas un comportement qui, etc. Bon, c'est sans fin. C'est pour ça que là-dessus, hein, vous dites où s'arrêteront les fonctions d'égalité, où doivent s'arrêter les fonctions d'autorité. Je dis, elles doivent s'arrêter très vite. Hein. Et ce que les assises pour l'interculturalité, qui ont fait un remarquable travail, qui n'a même pas été examiné, disaient là-dessus, c'est une liste fermée. Alors ça peut se discuter au Conseil national du travail, comme toutes ces choses-là, mais une liste fermée. Le droit fondamental, c'est la liberté religieuse, et il faut argumenter au cas par cas les exceptions, et non l'inverse, notamment pour des raisons d'égalité. C'est extrêmement important d'être à égalité sur le marché de l'emploi. Et il faut que les exceptions soient très sérieusement motivées pour les limiter. C'est pour ça que les assises avaient dit, fonction d'autorité, on peut discuter ce qu'on y met, mais cette liste permet. Et c'est pas chaque autorité qui décide, comme ça se passe maintenant, où on a une espèce de concurrence parfaitement mortifère, où chaque autorité essaie d'être plus répressive que celle d'à côté, pour montrer qu'elle, au moins, le djihadisme, on va s'y opposer.
Très bien. Oui, Jean-Philippe Chabert.
Chef Moulin, vous avez été quelque peu étonné que vous ayez tous les deux, pour l'essentiel, situé votre débat dans le cadre des signes convictionnels et de la neutralité. Non pas que ce n'est pas une question importante, mais il me semble tout de même que parler de laïcité et de diversité, ou de laïcité versus diversité, c'est évoquer des conceptions divergentes de la citoyenneté, des conceptions peut-être divergentes de la démocratie, quoique vous fussiez tous les deux démocrates, cela ne fait pas de doute, et humanistes, la compassion étant, je crois, aussi animalisme, mais on se trouve là quand même avec des positions qui ne sont pas antagonistes nécessairement, mais qui reflètent ce qui se passe actuellement dans notre débat de société, dans le débat philosophique, à savoir, là je manque de nuances, mais enfin qu'on peut cadrer globalement comme étant deux conceptions de la démocratie et du vivre ensemble. L'une, on entendait tout à l'heure Henri Barthélemy-Sen se revendiquer l'héritage des Lumières, d'une laïcité qui soit universaliste et d'universaux qui seraient portés avant tout par l'école comme vecteur de l'émancipation des citoyens. Et puis par ailleurs, il y a une position qu'incarne, je crois, partiellement Henri, qui vise plutôt à décrier ce qu'est devenu la philosophie des Lumières. Tu parlais d'universalisme pervers. Tu évoquais le fait que cette conception de la société était très située, en évoquant ce que Cécile Laborde qualifie de société catholaïque. Tu es peut-être, je crois, partisan, ou en tout cas, il y a une conception de la société aujourd'hui qui se veut, à la différence de la laïcité universaliste, faire une place aux identités et surtout tenter de réparer des injustices. Tu as parlé de mépris et d'humiliation, tenter de réparer des injustices qui auraient vu et qui continueraient à avoir des minorités au sein de nos sociétés considérées avec beaucoup de condescendance dans un cadre culturel de domination. Et donc je me demande si ce qui est au fond au cœur de votre dissensus, peut-être moins de l'ordre d'une conception différente de la liberté, mais peut-être d'une conception différente de l'égalité. Et donc peut-être pour sortir un peu des cibles conditionnelles, j'aimerais vous entendre à ce sujet, quelles sont vos conceptions de l'égalité, et est-ce qu'effectivement l'égalité doit aujourd'hui, Henri, se concevoir autrement dans une société qui serait peut-être post-moderne.
Comment il
dit Goldman, pardon. Je ne voulais pas le stigmatiser. Henri Goldman, est-ce que dans une société que certains considèrent comme post-moderne, cette égalité devrait aujourd'hui se... être considérée de manière différente qu'elle l'était autrefois.
Tu réponds
Non, je ne pense pas du tout. Je pense moi que c'est le contenu courant qu'on met dans la notion de laïcité qui s'est modifié. Bon, Jean Bouvereau explique ça très bien et je me réclame un peu de son enseignement quand il dit qu'il n'y a pas une laïcité française de tout temps, hein, que la laïcité de la loi 1905 est une laïcité qui est beaucoup plus libérale que ce qu'elle est en train de devenir et depuis une vingtaine d'années. Et quand on voit l'évolution à la fois de la jurisprudence du Conseil d'État français, de l'appareil législatif et aussi de la paranoïa particulière sur l'islam qui est en train de remplacer, avec le côté religieux en plus, la paranoïa autour du communisme de la génération précédente, qu'il y a de nouveaux accents. Alors, si on retire ces accents, non, moi je suis tout à fait d'accord avec le cadre de la laïcité, on dirait philosophiquement libérale, d'Aristide Briand, de Fernand Buisson, et de tous les auteurs de la loi de 1905. Ce sont les dérives actuelles, l'évolution actuelle, qui me dérangent. Alors, tu me poses des questions qui sont très, très au-delà de mes capacités. Hein, je n'ai pas vraiment de réflexion philosophique. J'essaye, bon, c'est un petit peu ce qu'avec... Bon, Taïou, c'est un tout petit groupe, hein, je vais quand même en dire deux mots. C'est un groupe dont vous n'entendez pas beaucoup parler, parce que c'est vraiment un think tank. Et le but d'un think tank, ça n'est pas de pétroler sur la place publique, ça n'est pas d'organiser des manifestations, mais c'est d'éprouver les choses ensemble. C'est vrai que je considère qu'une certaine parole légitime est une parole parfaitement située, c'est-à-dire une parole blanche, etc., etc. Je perçois le cal comme ça. Je perçois le cal comme un produit tout à fait normal de la société, je ne sais pas comment l'appeler, historiquement dominante en Belgique. Hein. Et maintenant, la question de la multiculturalité, je n'en fais pas une théorie politique. Je constate simplement, par exemple, que dans une ville comme Bruxelles, la majorité des habitants actuels n'ont plus aucune référence belgo-belge. On est dans une... Et que ça ne se traduit toujours pas sur le plan institutionnel, mais ça devrait au minimum nous questionner. Qu'est-ce que nous essayons de faire avec Taïouch? Nous essayons simplement d'être un groupe inclusif à l'image de ce qu'on voudrait que la société soit. Pour voir si c'est possible. On sait très bien que dans l'entre-soi, on aura toujours un discours confortable qu'on partagera avec ceux qui sont comme soi. Hein. Et c'est pareil pour tous les groupes, hein, y compris pour les groupes issus de l'immigration, n'importe lesquels. Hein. Bon, on essaie dans ce groupe-là, et on fait un vrai travail ensemble. Donc là-dedans, on a des musulmans, je vous assure qu'ils sont absolument laïcs, ils sont totalement séculiers, qu'ils n'ont absolument pas envie d'appliquer la charia en Belgique. Et j'en connais là-dedans, qui ont été manifestés pour le droit, même si ce n'est pas facile, pour le droit à l'avortement et à l'avortement, la contraception, c'est réglé. Donc c'est un vrai travail, mais ce travail lui-même doit être inclusif. C'est-à-dire que la réflexion qu'on doit faire sur ce que c'est aujourd'hui... Un universalisme enrichi par tout ce que les vagues migratoires apportent, c'est un travail qu'on ne peut faire qu'ensemble. Donc je ne peux dire que ça se fait en se faisant, hein, et ce n'est qu'en le faisant qu'on peut voir comment on peut être attentif à ce que c'est le mépris. Moi comme mec, très souvent, on doit m'expliquer plusieurs fois que telle situation est insupportable pour une femme. À la limite, ou bien je ne le comprends pas, et si je le comprends, j'ai envie de leur dire, mais c'est vraiment important, ça, vous ne pouvez pas passer au-dessus. Hein. Mais je parle à leur place, là. Ben, c'est la même chose avec les groupes qui ont l'impression qu'ils subissent une domination d'un type quelconque. Il se trouve qu'en dans une ville comme Bruxelles, les types quelconques se superposent. Et que la fracture ethnique, religieuse, elle se superpose très fort à la fracture sociale, à la fracture territoriale. Mais ce n'est qu'avec eux qu'on peut sentir le degré d'humiliation qu'ils ressentent. C'est avec eux qu'on peut sentir la dimension de dignité qu'ils mettent dans des choses qui pour nous sont des colifichets. Moi, j'entends régulièrement dire... Est-ce que vous pensez que Dieu en a à foutre que vous mettiez un chiffon sur votre tête, retirez-le. Mais qui suis-je, moi, pour me rendre compte du poids de dignité qu'il y a dans la demande de reconnaissance? Bon, là, je ne suis pas philosophe, mais j'ai un peu lu Nancy Fraser sur la manière dont doivent se combiner les luttes pour l'égalité sociale, ça on partage, hein, et les luttes pour la reconnaissance qui relèvent de la dignité. Et je suis très attaché à la première... à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est « Tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité ».
Monsieur Bartholomew-Hessen, sur la question de l'égalité, je pense que vous êtes évidemment sur le même terrain qu'Henri Goldman, mais sur cette question de l'égalité dans la reconnaissance, est-ce que vous sentez, ou est-ce que le CAL se sont interpellés par cette question-là? Parce que c'est vrai qu'elle est devenue centrale aujourd'hui dans le débat, et qu'on considère... dans les groupes comme ceux que Henri Goldman vient de décrire, que justement un certain universalisme, parce qu'il décide de traiter tout le monde de manière égale, mais sans prendre forcément les différences en compte, ne permet pas cette égalité dans la reconnaissance. Est-ce que c'est une question qui est posée à l'intérieur duquel, que vous vous posez, ou que vous considérez comme une fausse question?
C'est un débat qui n'est pas neuf.
Ah non, je n'ai pas dit que c'était neuf.
On prend Régis Debray. Il vous expliquera qu'effectivement, les droits de l'homme, c'est la nouvelle religion occidentale. Moi, je veux bien. Quand on parle avec un catholique, il vous explique que les droits fondamentaux, c'est une valeur chrétienne. Donc, non universelle. Ça veut dire en fait qu'on s'en revendique et on s'en protège, si et pour autant qu'on y participe. C'est toute l'ambiguïté. Donc, oui, je crois qu'il y a des choses, et la laïcité ne peut s'intéresser qu'à cette part d'universel qu'il y a dans l'individu. De cette part d'humanité qu'il y a dans l'individu. Au-delà de ça, nous arrivons dans des singularités qui sont des richesses tant qu'elles ne sont pas exclusives, tant qu'elles ne sont pas basées sur le mépris. Mais qui va parler du mépris? Alors j'aimais bien la réflexion de notre ami Henri Goldman qui dit, mais pouvons-nous, bien sûr en tant qu'homme, parler à propos des femmes? Mais que fait-il, lui, pour le moment, en train de parler de ce monde musulman qui se sentirait à ce point méprisé? Moi j'ai beaucoup d'amis musulmans, ou d'origine musulmane, qui n'ont pas exactement la même lecture que celle que j'entends, qui ne se sentent pas ostracisés, comme ça vient d'expliquer, et en tout cas, qui défendent l'idée, effectivement, d'une absence de signes distinctifs, notamment à l'école, et notamment dans la fonction publique. Et quand je dis que j'en ai plusieurs, j'en ai vraiment un bon nombre. Peut-être que c'est une tendance chez moi, peut-être que je connais plus ceux-là que les autres, c'est possible. Je ne veux pas parler pour eux. Je me passe, effectivement, délibérément du point de vue de Sirius. C'est-à-dire, j'essaye effectivement de faire cette algèbre compliquée entre l'homme abstrait et l'homme concret, l'homme qu'on rencontre, avec lequel on vit, et l'homme idéal tel qu'on pourrait imaginer qu'il soit, à la hauteur de ses droits, de sa dignité, de ses devoirs aussi. Quel pourrait être le commun dénominateur de cette humanité pour laquelle nous souhaitons le plus grand bien, pour laquelle on postule effectivement un même accès au bonheur, à l'égalité, à la liberté. On a vu, pas d'égalité sans liberté, pas de liberté sans égalité, mais également la solidarité qui permet de réégaliser. C'est ça la solidarité. Et la solidarité ne s'implique pas justement par une communauté. Le centre de réflexion de l'égalité, c'est effectivement l'État-nation. Ben, il disparaît aussi, manque de bol. On vit une période charnière, j'en conviens. On n'est pas encore dans un système où on pourrait même imaginer un gouvernement mondial, mais on n'est plus non plus dans un système où c'est la République et où les citoyens sont égaux en droit. Et il n'y a plus de citoyens, plus vraiment. La démocratie, elle s'étiole un petit peu. Est-ce que les décisions se prennent au niveau de la Belgique, de la France, de l'Europe, de la région, de la commune? On voit bien qu'effectivement, on a un petit problème là également de démocratie. C'est vrai. On ne le situe pas, on ne l'exprime pas, mais il est réellement là. Nous vivons dans des démocraties de papier très fragiles. Il suffirait de peu de choses pour les faire basculer. C'est parce qu'on a une culture, effectivement, qui est une culture de démocrates qu'on ne se rend pas vraiment compte et qu'on n'en perçoit pas encore tous les effets, mais on vit dangereusement. On vit dangereusement. Parce qu'effectivement, la notion même de pouvoir public, de puissance publique, n'a plus la légitimité qu'elle pouvait avoir par le passé. Et on ne voit pas encore quelle est la l'étape, quelle est l'étape où cette légitimité pourrait se réinstaller pour installer précisément une égalité, enfin la belle formule, les pouvoirs de la nation appartiennent à la nation. Ah ben c'est quoi la nation? C'est un mot qui est chargé de tellement de sens divers aujourd'hui, tellement trouble. Bon, donc voilà où on en est. Effectivement, c'est complexe, c'est pas binaire, c'est pas, il y a plein de paramètres, plein d'ouvertures, plein d'entrées possibles au débat que nous avons ici. Oui, l'égalité, je pense qu'effectivement, n'empêche pas la différence. C'est même le même problème pour les rapports égalité homme-femme. Est-ce que c'est un rapport d'identité ou d'égalité? Ben, c'est pas une identité, mais c'est une égalité. Une égalité revendiquée, puis qui peut s'actualiser différemment selon les individus.
Il y avait encore deux demandes de questions, oui?
Oui, moi j'avais aussi été assez surpris que l'au-delà se proclamait.
Il a été un peu dirigé, il faut dire. On a reçu quelques instructions au départ. Non. Hein.
Je n'ai pas dit qu'il fallait aborder la diversité à travers les signes convictionnels. J'ai simplement demandé qu'on aborde la diversité.
Et par rapport au thème de la diversité et du vivre ensemble, il est évident que tout ce que nous vivons et tout le ressenti des uns et des autres est fonction du produit de l'histoire. Et il est évident que le produit de notre histoire, c'est d'avoir vécu dans une société qui très longtemps a été dominée par une religion, avec des atteintes finalement à la liberté de ceux qui n'étaient pas des disciples de cette religion. C'est vrai que tout le débat est très fort marqué par cela. Et que notre société traditionnelle belge est une société traditionnellement très pilarisée, entre les grands courants, d'un côté les cathos, de l'autre les laïcs. Ça, c'est tout à fait évident. Mais alors, je me demande si le vrai débat, lorsqu'on parle de diversité, de vivre ensemble, un vivre ensemble qui permette d'apprécier la richesse des différences, n'est pas finalement le débat de l'école. Parce que nous sommes dans une société de réseau, où c'est vrai, comme on l'a dit, l'école catholique n'est plus très catholique. Bon. Mais est-ce que l'on va assister, puisque ce sont des droits qui sont reconnus dans notre système, à une multiplication de réseaux d'enseignement, et donc à un communautarisme scolaire qui fera, par définition, tout le contraire que de favoriser la diversité. Alors moi, je crois que le vrai débat en termes de laïcité et en termes de diversité, c'est l'école, l'évolution de l'école. On veut que les gens vivent ensemble pour apprendre à vivre ensemble. Le meilleur lieu pour apprendre à vivre ensemble, c'est l'école. Et je crois que ce qui inquiète beaucoup, au nom d'une certaine histoire, qui est sans doute dépassée par l'évolution des choses, c'est que, historiquement, les religions ont toujours eu tendance à avoir le sentiment de détenir la vérité et à vouloir imposer leurs lois. Ça s'est atténué au fil du temps, mais il en reste des traces, même si celles que l'on entend sont sans doute fort marginales. Et je crois fondamentalement que pour vivre ensemble, le minimum, c'est d'avoir un respect minimum, une tolérance. Je ne veux pas discuter des différentes significations du mot tolérance. Et est-ce que le vrai problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons une situation scolaire qui est le fruit d'un héritage, et que si l'on extrapole cet héritage à toutes les diverses formes que prend notre société actuellement, on risque de se confronter à une accentuation du problème que l'on vit actuellement. Alors que la vraie problématique, c'est pas celle de ce que dans le temps, il y a très longtemps, on appelait, mais on n'ose même plus dire ça, l'école pluraliste, que c'était pas finalement ça le vrai débat. Et quelle est la marge de manœuvre des États par rapport à ça, par rapport notamment au respect de conventions internationales dans la matière qu'on a évoquée.
Je propose d'écouter la dernière question et puis de laisser à chacun des deux orateurs choisir éventuellement de répondre plutôt à l'une ou à l'autre.
Oui. Henri Barthélemy-Sen a aidé pour dire nous ne faisons pas du binarisme, et à la fois dans un premier temps il disait expliquons la ratio legis, puis dans une des répliques tu as quand même rappelé implicitement qu'il n'y a pas de loi.
Il
n'y a pas de loi qui...
Non.
Le fameux liberté du chef d'établissement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une loi générale qui ne soit pas binaire, qui accorde autant de droits que de devoirs? Et je peux être très concret, c'est de dire que par exemple, dans les cours de sciences exactes, on dirait pas de signes. Aux cours de sciences humaines plus culturelles, on les accepterait plus volontiers. À la cour de récréation également, en l'espace des élèves. Aux cours d'éducation physique, ils ne sont pas mixtes. Là, on va dire, ben, mais là, on rentre dans le débat que monsieur a introduit, de dire si c'est pour des raisons de pudeur que vous portez les signes, vous êtes entre filles, vous ne devez pas les porter. Ben voilà, je pense que ce débat politique, qui met, aujourd'hui, maintenant, la politique s'est enfin mêlée des cours de religion, pour mieux les enterrer, peut-être ça leur ressortira un petit peu. Cette question-là n'a toujours pas été débattue.
Une dernière intervention de l'un et de l'autre sur effectivement ces questions de l'école.
Ça va pas conclure des débats. Hein.
Bon,
on se rend bien compte de, donc là je suis tout à fait d'accord avec l'autre Henri. On a vraiment un socle de, qui fait qu'on est capable de discuter ensemble. Parce que ça c'est vraiment deux personnes qui peuvent même pas discuter ensemble, qui font des monologues. Là ils n'ont pas beaucoup de commun. À mon avis on peut discuter ensemble. Je saisis déjà sur quoi on pourrait essayer d'avancer. Bon, on est en déposition aussi, on ne peut pas se convaincre devant tout le monde, ça. Éventuellement, ça se frappe. Bon. Sur cette question-là, ça ne va pas du tout clore le débat. J'avais noté à la fin cette belle devise que je fais mienne, qu'on peut peut-être partager, je ne sais pas, qui est la devise du Centre bruxellois d'action interculturelle, et qui est unir sans confondre, distinguer sans séparer. C'est un paradoxe, hein, et chacun mettra l'accent, mais je pense que c'est une boussole, une étoile qui devrait pouvoir tous nous guider. Maintenant, c'est intéressant, mais c'est un autre débat, c'est pourquoi en Belgique, on ne légifère pas. Et ça aussi, ça renvoie, alors, c'est plus le politologue que je pourrais... Tout l'ancien politologue, là, c'est tellement longtemps. C'est aussi très intéressant, hein. Ça donne aussi de la marge, et c'est mieux et c'est moins bien. J'ai dit tout à l'heure qu'en France, on a légiféré. Bon, la France est un État colbertiste où la politique se fait du haut vers le bas. La Belgique est un État aussi différent. C'est difficile d'imaginer plus différent que la France, que le nôtre, hein, où le politique a pratiquement été créé par la société civile, qui la tient d'une certaine façon sous tutelle dans des rapports un peu compliqués. Hein. Mais donc, en France, on légifère du haut vers le bas. En Belgique, on prend le pouls de la société avant de voir si une loi permettra d'éclaircir les choses ou les compliquer. Et en fonction des rapports de force, il y a pour le moment un consensus qui consiste à dire ne faisons pas de loi, décentralisons complètement la décision et renvoyons-les aux rapports de force locaux, hein, des communautés éducatives avec l'autorité, le pouvoir organisateur, les syndicats locaux, les parents d'élèves qui sont là autour, et voyons ce qui ferait le moins de vagues. Alors, en agissant de cette façon-là, c'est vrai qu'il y a plus de plasticité. C'est vrai que demain, par exemple, il n'est pas exclu, et j'aimerais bien que ça se passe comme ça, que certaines écoles fassent recul. Moi, pendant tout un temps, cette idée qu'on aurait un grand nombre d'écoles qui interdisaient et un autre nombre d'écoles à peu près équivalent qui autoriserait, d'un point de vue marché, ça pouvait me convenir à la Belge. Hein, chacun aurait pu trouver une école à sa main. Ce qui s'est passé, c'est vu la parano dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, qui est quand même en toile de fond de tout ça, hein. On a une certaine parano, hein. Bon, ça, c'est difficile de le nier. Hein. On a eu un jeu de domino, qui en même temps est un jeu qui a permis à certaines écoles de se positionner autrement sur le marché scolaire. Puisque les pédagogues disent, dans un quasi-marché scolaire, où chacun essaie d'attirer les bons parents et d'éliminer les mauvais. Les mauvais enfants, c'est en fait les mauvais parents. Hein. Donc devenir des écoles d'élite qui tirent l'école vers le haut et de repousser vers le bas. C'est une des raisons pour lesquelles toutes les enquêtes PISA disent que notre enseignement est... Un des plus mauvais pour ce qui concerne les couches défavorisées de la société. Pour les autres, il n'y a pas de souci pour eux. Donc on est dans cette situation qui est très compliquée. Est-ce que dans ce sens-là, on doit appeler à légiférer? Juste à un moment donné, je pensais que oui. Et je pense peut-être toujours que oui. Même si la loi me déplaît. Parce qu'au minimum, on sera capable à ce moment-là il y aura des gens qui seront responsables politiquement d'une loi que je pourrais combattre. Tandis que maintenant, tout s'est complètement dispersé, on est obligé de mener des combats. C'est pour ça que je vais vous donner des exemples. On est acculé à faire ça. Maintenant, on devra rappeler dans ce débat-là qu'il y a d'un côté l'intérêt général, mais que les droits humains se vérifient aussi au respect des minorités, et que c'est cet équilibre-là qui est en train de basculer du mauvais côté, selon moi.
Monsieur Martin-Messen.
Mais pour répondre rapidement aux deux questions, je suis parfaitement d'accord pour dire que l'école est effectivement au centre de la problématique. Elle a toujours été là un enjeu, aussi bien pour les laïcs que pour les religions. On sait bien que c'est à partir de là que, effectivement, les destins peuvent se construire, où on peut effectivement faire du prosélytisme ou non, où on peut offrir une alternative, je dirais, plus humaniste, plus universelle que ne peuvent l'offrir les religions, les singularités religieuses. Est-ce qu'il faut légiférer? je suis dubitatif, parce que même une loi qui serait prise à la majorité aurait quand même l'obligation de respecter des minorités. Et de quoi parlons-nous si ce n'est effectivement de faire en sorte que le plus faible, le moindre, le plus petit groupe d'entre nous puisse au moins assurer une existence de qualité dans un rapport égalitaire avec le restant du monde, avec le restant des citoyens. Donc la loi ici, oui, il y a à boire et à manger, bien sûr que ce serait la solution, puisque sa source, elle, au moins serait démocratique, elle serait lisible par tout le monde, elle pourrait être critiquée simultanément, on pourrait changer la loi, mais on fait un pas de plus pour dire quoi ? Qu'effectivement, le cours de géographie se fera avec un signe convictionnel et le cours de français, pas. Les mathématiques, ça, c'est la science, effectivement. On doit absolument retirer tout signe convictionnel. La gymnastique, par contre, c'est discutable. Enfin, bref, on se rend bien compte que il est quasiment impossible de trouver une solution sur mesure. Je dirais, à un moment donné, on arrive de toute façon dans le paradoxe. On arrive de toute façon dans le cas particulier qui prête à sourire et qui permet, effectivement, de se gausser de la solution, quelle qu'elle soit. Donc il faut effectivement une capacité, une aptitude à prendre sur soi. La question, c'est de savoir qui doit prendre sur soi. Est-ce que c'est le pouvoir ou est-ce que c'est l'usager ?
Bien, merci. Je me permettrai d'ajouter sur cette question de cours qu'il serait au moins aussi logique de considérer que c'est dans les cours qui ont un contenu sensible culturellement qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de signe convictionnel. Et par contre, au cours de mathématiques et de physique, ma foi, qu'un foulard, une kippa ou autre soit porté, qu'est-ce que ça change ? Comme quoi, effectivement, légiférer ne mettra pas d'accord, sans doute en deux temps, trois mouvements. Merci beaucoup aux deux débatteurs qui, je crois, ont en tout cas bien rempli leur fonction qui était de prendre des positions claires et courtoises, mais en même temps suffisamment tranchées pour que le débat ait eu toute sa vivacité. Et merci aussi pour vos questions et interventions. Cette question d'école sera évidemment centrale dans la troisième de nos rencontres en décembre. J'ai oublié la date exacte. On parlera pas que de ça, je l'espère, mais entre Karine Hermans et Edouard Delruel, on reviendra notamment sur ce terrain-là en particulier. 9 décembre, c'est ça, oui. Et donc pour les plus juristes parmi vous, mais pour les autres aussi, au mois de novembre, c'est la question d'une éventuelle inscription de la laïcité dans la Constitution. Je ne crois pas que ça nous attende pour après-demain. Mais intellectuellement, elle est assez excitante, assez intéressante. Et on reparlera France et Belgique sans doute à ce moment-là. Merci. Merci bien, c'était passionnant. Non. J'étais tout à fait confiant, tu sais, je n'ai pas préparé de question, rien du tout.